Délivrez-vous, une émission de Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
Bonjour à tous. Eh bien, de nouveau, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle aventure littéraire cette semaine pour un livre, je dirais, émouvant, audacieux, bien écrit, une jolie écriture, beaucoup d'émotions et je dirais un auteur délicat, un brin romanesque, mais ça fait du bien chez un homme de trouver toute cette sensibilité. Le livre à lui seul est évocateur, Libre d'aimer, aux éditions IXO. Bonjour Olivier Merle.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre nouvel ouvrage aux éditions IXO, Libre d'aimer. Alors déjà, eh bien, vous savez, je vais vous poser une petite question. Qui est Olivier Merle ?
Ah, je suis.
Oui.
Alors, je suis professeur à l'université de Clermont-Ferrand en sciences de la Terre. Donc, je suis au départ un scientifique.
Et, géologue.
Je suis donc géologue, voilà, et je suis chercheur et enseignant aussi, évidemment.
Oui.
Et par ailleurs, donc, alors j'ai évidemment une carrière de chercheur derrière moi, donc j'ai écrit beaucoup d'articles scientifiques.
Oui.
Et par ailleurs, je suis marié, j'ai trois enfants, et qui sont grands maintenant, hein, ils atteignent la trentaine.
Oui.
Ils ont quitté le nid depuis déjà un petit moment.
Mm-hmm.
Et voilà, et puis j'ai une passion d'écrire depuis maintenant bien longtemps.
Oui,
bien longtemps.
Alors je dirais que vous êtes tombé un petit peu dedans, dans la marmite comme Obélix, puisqu'on peut le dire, vous êtes le fils de Robert Merle.
Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, effectivement.
Oui.
Je suis le fils de Robert Merle, donc beaucoup de gens connaissent,
hein, oui.
Qui a eu le prix Goncourt en 1949,
oui.
Qui est donc un écrivain connu et reconnu.
Et reconnu. Voilà,
et qui fait qu'effectivement, l'écriture ne m'a pas semblé quelque chose d'exceptionnel, puisque j'ai vu mon père, quand j'étais jeune, écrire, toujours écrire, encore écrire et publier de nombreux romans. Ce qui fait que, effectivement, je suis un peu tombé dedans comme Obélix.
Et qui a eu une longue et belle vie, puisqu'il est né en 1906, c'est ça ?
8,
et décédé en 2004.
Voilà, c'est 95 ça. Ans.
95 ans, une longue et belle vie, voilà. Alors, nous allons parler donc de votre livre, Libre d'aimer. Je disais un livre plein de sensibilité, audacieux, un peu gonflé, dirais-je, vous savez, d'une manière un petit peu très triviale,
parce
que nous sommes bien en juillet 42, sous l'occupation allemande, à Paris. Notre première héroïne est Esther, c'est une jeune fille de 20 ans qui est complètement perdue parce que ses parents viennent de se faire arrêter parce qu'elle est juive. Donc, ses parents le sont également. Elle se balade un peu comme ça dans Paris, un peu désorientée. Elle s'assied sur un banc et elle va croiser le regard d'une femme qui, en d'autres temps, elle n'aurait peut-être jamais rencontré, Esther Dorval, qui est un peu plus âgée qu'elle. Et là, tout va commencer parce que vous allez nous raconter l'histoire d'amour de deux femmes sous l'occupation, à une époque où c'était mal vu, c'était ce qu'on appelait les garçons. Vous allez également nous faire voyager dans un Paris un peu inconnu, des cabarets, des cabarets de la nuit sous l'occupation. Et puis, on va se balader comme ça jusqu'à Dinard, Saint-Malo, au moment où les Alliés vont libérer la France, en tout cas une partie de cette France. Mais alors, pourquoi avoir choisi ce thème, je disais audacieux, assez gonflé? C'est vrai, une période où aujourd'hui les choses sont plus acceptées, mais malgré tout, pourquoi ce choix? Dites-nous.
Alors c'est assez compliqué de remonter à la genèse d'un livre, hein. D'ailleurs l'auteur en général l'oublie.
Oui.
Au départ je voulais pas faire ça, je venais terminer un roman purement historique, hein, sur le radeau de la Méduse. Et j'étais un peu en panne d'inspiration, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Dans ces cas-là, je ne panique pas, hein, j'attends que quelque chose vienne. Et puis j'ai eu l'idée d'écrire un roman policier. J'aime bien changer, j'aime bien varier.
Mm-hmm.
Et ce roman policier, alors j'ai monté une intrigue qui était assez compliquée, etc. Et dans cette intrigue, il y avait deux femmes qui s'aimaient. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, non, ce que je fais, c'est pas très bon, c'est pas très intéressant, finalement. Et il y a eu une sorte de déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je n'ai pas d'explication à oui. donner, mais j'ai envie de raconter l'histoire d'amour entre deux femmes. Et à ce moment-là, bon, j'ai repris tout à zéro et j'ai tout recommencé. Pourquoi la période ? En fait, la période, je l'ai choisie parce que c'est une période de régression pour la condition féminine.
Oui.
Après une relative, disons, libération ou émancipation.
Au moment des années folles.
Les années 30. Qui venait en fait qui était en fait issue de la guerre 14-18, à une époque où tous les hommes étant au front, les femmes avaient beaucoup participé à l'économie du pays. Et donc ça, il en avait résulté en fait une libération. Mais alors arrivé évidemment à la période de la guerre, après la défaite de la France, et puis l'occupation, et puis le régime de Pétain, il y a eu vraiment un retour de bâton extrêmement violent et extrêmement hystérique contre les femmes, qui a fait que toutes les lois se sont durcies. Et pour moi, c'est une période intéressante parce qu'elle montre que rien n'est jamais acquis. On peut toujours revenir en arrière, même quand, alors nous, maintenant on vit dans une société où on a l'impression que beaucoup de choses sont libérées, que les choses avancent, que les choses progressent, etc.
Mais
voilà, il faut rester vigilant parce que, en fait, il suffit d'un changement de régime politique et puis on peut revenir en arrière, malheureusement. Et il y a toujours des forces d'ailleurs qui tirent en arrière, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette période.
Alors, est-ce que cela aussi, comme ça, en arrière-plan, au fin fond de l'esprit, la parole de certaines femmes qui se sont développées, qui ont osé parler avec les événements que l'on sait, une forme de libération de la parole, mais aussi un peu la libération des femmes, la condition féminine un petit peu plus juxtaposée par rapport à la vie d'avant et puis aux événements d'aujourd'hui?
Oui, alors évidemment, il y a une résonance hein, avec les événements d'aujourd'hui, ça certainement. Bon, la libération de la femme, elle est en cours, je dirais, mais elle n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a déjà beaucoup progressé, je dirais, mais bon, il reste beaucoup à faire. Et puis, on a vu avec tout ce qui se passe en ce moment avec l'affaire Weinstein, MeToo, etc., que, bon, il restait encore énormément de trajets à accomplir et que ce sera sans doute d'ailleurs très long. Hein, il ne faut pas penser que ça va aller vite, ces affaires-là, malheureusement. Et voilà, donc il y a effectivement ce parallèle entre ce qui reste à faire, qui est important, et puis les périodes antérieures. Parce qu'on ne peut pas nier non plus qu'il y ait eu beaucoup de progrès, hein, en particulier dans les années 70.
Oui.
Mais même tout a commencé dès la libération, puisque en 45, il faut quand même se rendre compte que ce n'est qu'en 45 que les femmes ont eu le droit de vote en France.
Mmh.
C'est quand même très très tard. Mmh. Et puis ensuite, bon, il y a eu...
Dans les années 60, où elles ont pu travailler sans l'autorisation de leur mari et signer un chèque. Oui, tout à fait.
Voilà, il a fallu attendre les années 60. C'est aussi incroyable qu'il a fallu attendre les années 60 pour que les femmes mariées aient eu le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari et le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. C'est quand même incroyable. Puis après, il y a eu la pilule en 69. Et
quand
puis
on
après,
y pense,
il y a eu l'IVG. Enfin, voilà,
oui, quand on y pense, c'est hier. C'est hier, finalement.
Oui, c'est hier. C'est
hier.
Très, très récent.
Oui.
C'est ce qu'on oublie souvent un peu. Alors, les gens qui sont plus âgés s'en souviennent. Mais les jeunes, en fait, ils ont souvent l'impression de vivre dans une époque qui est celle-là depuis toujours. Parce qu'évidemment, quand quelque chose est arrivé, on oublie quand c'est arrivé et puis on vit dedans. Mais voilà, c'est effectivement extrêmement récent et donc fragile, à mon avis. C'est pour ça que je le disais en début d'une interview, hein, il faut rester très vigilant, sur ces affaires. Mmh. Ouais.
Alors, nous allons parler de vos deux héroïnes, qui sont deux femmes que j'ai trouvées attachantes, courageuses aussi, parce que pas évident dans cette période. Et puis elles vont tout affronter, elles auront un choix à faire ensuite par là. Ensuite. Alors, parlez-nous de Thérèse et... ça y est, j'ai oublié son prénom.
Et d'Esther.
Voilà, parlez-nous d'elle.
Elles sont très différentes, hein, ça c'est sûr. Bon, Esther est juive, donc évidemment elle vit une période épouvantable. Ses parents, alors elle a 20 ans, elle est toute jeune.
Oui.
Elle est issue, on dirait, de la classe moyenne à notre époque. Malheureusement, ses parents viennent d'être arrêtés au moment de la rafle du Veldiv,
16 juillet 42, voilà. Oui.
Voilà. Et elle y a réchappé miraculeusement, mais elle a perdu l'appartement où elle vivait, et donc elle erre dans les rues de Paris, complètement désespérée, terrorisée aussi. Elle ne sait pas quoi faire, et le hasard va faire qu'elle va rencontrer alors une femme qui est totalement différente d'elle, d'abord qui est plus âgée, puisqu'elle a 30 ans, qui est
mariée,
issue de la grande bourgeoisie. Grande bourgeoisie, d'ailleurs on verra après que c'est de la grande bourgeoisie conservatrice, qui, elle, est mariée, n'a pas d'enfant, mais a des difficultés extrêmes dans son couple, hein, c'est un couple qui ne marche pas du tout, qui fonctionne pas du tout, d'ailleurs le mari est un personnage qui
détestable.
Collabore avec les Allemands.
Détestable, oui.
Qui est détestable, mais on peut le dire. Alors, il est riche aussi, hein, il collabore avec les Allemands, et Thérèse connaît déjà depuis longtemps son orientation sexuelle, je dirais, elle est lesbienne, et elle vit sa sexualité comme elle le peut, puisque, bon, elle est mariée, et puis à cette époque, c'est extrêmement réprimé, donc il faut se cacher, mais elle n'est pas du tout, donc, elle n'est pas sur le même plan du tout que Esther, qui, elle, ne connaît rien de ses orientations sexuelles encore. Donc, voilà, et c'est une rencontre qui se produit, et Thérèse va prendre Esther sous sa coupe, lui proposant, puisque celle-ci est complètement perdue dans Paris et qu'elle n'a... Elle n'a aucun avenir, elle finirait de toute façon par se faire arrêter tôt ou tard. Comprenant d'ailleurs qu'elle est juive, parce que Thérèse le comprend très vite, lui propose en fait de venir comme domestique chez le couple, donc de Thérèse et de son mari, puisque la dernière domestique est partie depuis peu de temps. On saura d'ailleurs dans le roman pourquoi, parce que c'est une histoire aussi épouvantable. Oui. Et voilà comment se fait la rencontre et comment se fait le début donc des relations entre Esther et Thérèse.
Alors vous nous racontez aussi au travers d'Esther et Thérèse un Paris, je dirais, un peu disparu, moi qui suis née à Paris et qui adore ma ville, un peu disparu, méconnu, de ceux qui n'ont pas connu ce Paris des cabarets, de la vie nocturne très différente de celle d'aujourd'hui, les cabarets où se retrouvent les garçons, mais ce Paris aussi, au vu de l'époque, un peu dangereux. Est-ce que ça vous a demandé une recherche particulière pour retracer, parce que l'ambiance est très bien racontée, on y plonge avec délectation, avec aussi parfois crainte, parce que c'est bien, bien écrit, bien retranscrit. Comment vous avez construit cette idée, cette ambiance du Paris de 1942 sous l'occupation?
Alors j'ai fait quelques recherches évidemment pour retrouver cette ambiance et moi je ne connaissais pas du tout, hein, là, puisque mes héroïnes vont dans le cabaret de Moon, qui existe encore mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était à l'époque. Donc j'ai fait effectivement quelques recherches pour essayer de retrouver l'atmosphère qui pouvait y avoir dans ce type de cabaret, et j'ai trouvé d'ailleurs, et on peut retrouver ça sur internet si ça intéresse vos auditeurs et vos auditrices, on peut retrouver sur internet des articles sur le cabaret de Moon de l'époque et des photos de Moon qui tenait ce cabaret, des photos alors qui sont un peu plus récentes puisqu'elles datent des années 50, donc oui. Moon a un petit peu changé, mais je me suis servi des photos par exemple pour décrire Moon, décrire comment elle était. Et puis c'est l'époque, comme vous le disiez, des garçons. Alors les garçons, bon, ce sont des femmes qui s'habillent en hommes avec un costume,
les cheveux très courts,
nœud papillon ou éventuellement cravate, qui ont les cheveux très courts et puis qui fument des cigarettes, etc. C'est une époque en fait, c'est une étape. Je dirais c'est une étape de l'homosexualité féminine qui maintenant est totalement dépassée, mais qui était une manière à l'époque pour les femmes lesbiennes de montrer que elles pouvaient se passer des hommes. En s'habillant en homme, en fait, c'était la marque en disant, voilà, on peut se passer de vous puisque, vous voyez, on porte le même costume que vous. Bon, c'est quelque chose qui fait un peu sourire à notre époque parce que c'est complètement dépassé.
Elles étaient un peu androgynes. Elles avaient une allure un peu androgyne.
Un peu androgyne, oui, oui, tout à fait. Alors, il y a des photos de ces garçons aussi sur Internet qu'on peut trouver assez facilement. Et donc, je me suis servi de tout ça pour décrire l'ambiance, le cabaret, l'allure des personnes qui s'y trouvaient, etc. De toute façon, dans tous les romans que je fais, quand il y a des parties, disons, historiques, je me documente le mieux possible.
Hein.
Comme j'ai fait des romans historiques, et puis je suis un universitaire, je me documente de la façon la plus sérieuse possible, comme je l'ai fait pour ce roman, pour le contexte historique, puisqu'on est sous l'occupation à Paris pendant la guerre.
Alors, au-delà, bien sûr, des détails, dirais-je, matériels, hein, pour la reconstitution de l'ambiance et du côté historique, je trouve que c'est fort bien décrit, les sentiments entre ces deux femmes, cette sensibilité, ce regard sur l'autre, l'inquiétude du moment, l'avenir, quel avenir et pourquoi. Et puis, ce rapport entre les femmes, vous avez très bien, comment dirais-je, très bien saisi cette sensibilité, le regard sur l'autre, ce que deux femmes peuvent se dire, se raconter et comprendre. Est-ce que vous avez vous-même rencontré des femmes qui s'aimaient ou vous avez une sensibilité, dirais-je, féminine, comme ça peut arriver à certains hommes et c'est formidable. Dites-nous.
Alors, je n'ai pas rencontré en fait des femmes qui s'aimaient.
Oui.
Donc, ce n'est pas une expérience personnelle, je dirais. Que
oui.
Je n'ai pas eu de rencontre où j'ai pu discuter, observer, etc. Par contre, bon, ça doit venir de ma propre sensibilité, hein, comme vous le dites. Hein, je dois avoir, comme tout être humain, hein, on a des sensibilités variées, et il doit y avoir dans ma personnalité, sans doute, aussi une sensibilité féminine, ou du moins une capacité à comprendre les femmes et la façon dont elles réagissent, les émotions qu'elles ont. C'est probablement ça le propre du romancier aussi. Le romancier, c'est une éponge, hein. C'est quelqu'un qui souvent absorbe un petit peu ce qu'il y a autour de lui, le matériel autant que les incidents, les événements, les émotions des gens. Donc voilà, c'est un pari aussi, hein, pour moi, parce que quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, vous avez utilisé le mot gonflé au départ de l'interview. C'est vrai que bon, il y a une amie qui m'a dit quand même. Olivier, tu es gonflé quand même.
Ah, voyez,
fait ça.
Voyez.
Mais elle m'a félicité, elle m'a dit que c'était très bien fait.
C'est très joli.
Donc moi, c'est ma plus grande récompense, c'est que des femmes me disent que voilà, elles s'y sont retrouvées et que ça aurait pu être écrit par une femme. Ça, moi, je trouve que c'est la plus belle récompense pour un romancier.
Mais c'est vrai, j'avais pas d'a priori parce qu'en tant que qu'animatrice de livres, je dois pas avoir d'a priori. Bien évidemment, on se fait quand même notre avis. Donc j'ai abordé le livre avec une certaine réticence, mais j'avais envie de le lire. Et puis au fur et à mesure des pages, je dis ça pour les auditeurs et les auditrices de Ces deux ailes et Délivrez-vous, c'est vraiment une belle écriture, il y a de beaux sentiments. Et puis c'est vrai que l'époque voudrait que ça terrifie un peu, mais de par cet amour finalement, moi, que j'ai trouvé très pur, très beau, eh bien ça fait passer les atrocités et l'horreur qui règnent à ce moment-là. Donc ça, c'est un pari gagné en tout cas.
Effectivement, l'amour, en fait, puisque c'est un roman d'amour, l'amour, finalement, surnage et surpasse, je dirais, les événements dramatiques de l'époque. Alors, c'est une lutte, hein, permanente pour ces deux femmes dans ce contexte, hein, parce qu'elles ont évidemment beaucoup d'événements dramatiques à surmonter, mais voilà, grâce à leur amour, elles y parviennent. Je pense que c'est ça qui transparaît et qui permet, non pas d'effacer, mais d'atténuer en fait la dureté de l'époque et de la situation qu'elles vivent.
Alors nous allons faire une petite pause musicale, beaucoup moins dure et beaucoup plus jolie et agréable, et nous nous en retrouvons tout de suite après.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Olivier Merle pour son dernier roman, Libre d'aimer, aux éditions IXO. Alors, votre titre aussi, Libre d'aimer, est une explication, une raison à lui tout seul. Il y a libre et puis aimer. Mais à cette période, on le disait à cette époque, eh bien, ces deux mots, notamment pour deux femmes, qui semblent tout à fait difficiles. J'avais envie de vous dire deux femmes ou deux hommes. Bien évidemment, dans le livre, il n'en est pas question, mais ça devait être également la même chose pour cette époque. Alors, on le disait, Thérèse va l'employer comme domestique, hein, puisqu'elle a compris qu'elle était juive, donc ça va beaucoup l'aider, parce que l'ancienne domestique est partie pour des raisons difficile aussi, mais on laisse aux soins les lecteurs de découvrir. Donc tout au long, on va voir leur vie se passer, leur amour naître aussi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la façon dont Thérèse a amené Rachel à cet amour, à lui faire comprendre les choses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, tout a été comme une évidence.
Oui, ben, c'est l'amour, quoi. Je pense que ça s'explique pas finalement. C'est une sorte de magie qui oui. s'opère. Esther, en fait, au départ, elle ne sait pas pourquoi, mais elle est fascinée. Elle est fascinée dès le premier regard.
Oui.
Et ça, c'est bien une marque. Quelque chose se passe et souterrainement. Alors, elle ne sait pas qu'elle l'aime. Elle le découvre peu à peu. Thérèse aussi, sans doute. Alors, Thérèse, c'est un petit peu différent parce que Thérèse, probablement, est d'abord attirée, probablement plus sexuellement, par Esther.
Oui.
Je pense que dès le début, Thérèse doit la désirer. Ce n'est pas le cas d'Esther, qui ne connaît rien, en fait, pour l'instant. Elle est très jeune.
Oui, surtout, elle est perdue.
Elle est malheureuse, elle est au fond du trou.
Oui.
Et donc, elle va découvrir peu à peu son amour et son attirance. Donc, pour elle, c'est une découverte totale, ce qui n'est pas le cas pour Thérèse, hein, qui est plus expérimentée. Voilà, donc, elles ne sont pas sur le même plan non plus dans leur approche, très certainement. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand Esther découvre et puis finalement se donne ou veut se donner à Thérèse, Thérèse au départ a un moment de
elle est réticente
de refus parce que elle se demande si c'est bien vu ce qui s'est passé avec la précédente domestique. Bon, donc on va pas raconter l'histoire,
non.
Mais bon, elle a aussi peur, elle est inquiète, puis elle a probablement pas envie de l'autorité qu'elle a sur Esther, ou du moins l'emprise.
Voilà,
plutôt qu'elle sent, voilà, c'est plutôt le mot emprise, l'emprise qu'elle sent sur Esther, bien qu'elle en profite. Elle a un petit peu, bon, mais c'est très probablement aussi, en fait, de la part de Thérèse, une marque d'amour, c'est-à-dire que finalement elle l'aime. Et donc, elle se demande si elle doit profiter de l'amour que Esther lui porte, étant donné que la situation est très asymétrique et qu'éventuellement, Esther pourrait en pâtir ou en souffrir. Parce que Thérèse, avant de rencontrer Esther, est quand même assez volage.
Oui.
Elle a une vie bon, très animée.
Un peu dissolue, oui. Mais il ne faut pas oublier non plus que Thérèse a un mari très cynique, violent, je disais tout à l'heure, détestable. Il collabore avec les Allemands. Donc, elle se réfugie aussi dans son monde à elle. Ça va aussi l'aider à aller vers Rachel.
Tout à fait, oui. C'est vrai qu'elle est... Bon, Thérèse aussi est perdue aussi, quelque
oui,
part.
Oui, bien puisque, sûr, bon, elle dans est, une vie qui...
Chez elle, une vie vraiment épouvantable. Et donc, la... En fait, il faut leur union pour qu'elles s'en sortent, toutes les deux. Elles ne peuvent pas s'en sortir sans
l'une
ou
sans l'autre.
Et je pense d'ailleurs que... tout au long du roman, on voit Thérèse évoluer, puisqu'il y a aussi une évolution de Thérèse qui est importante. Au départ, Thérèse, en tant que grande bourgeoise, ne travaille pas, n'a jamais travaillé, n'imagine pas qu'elle puisse travailler. Et puis c'est Esther qui va la pousser progressivement à penser que effectivement elle peut travailler et le travail c'est une émancipation.
Oui.
Donc voilà les deux. À un moment donné, il y a une sorte de renversement d'ailleurs parce que Thérèse au départ domine quand même beaucoup Esther. Et puis
mais il y a la modernité de Rachel, la modernité et la jeunesse de Rachel qui va amener Thérèse à certaines choses.
Oui, voilà.
Vers lesquelles elle ne serait pas allée sans elle.
Voilà, exactement. Donc il y a une, il y a un basculement à un moment donné où on voit que Esther prend de plus en plus d'autorité, d'affirmation d'elle-même, et puis que voilà, elle est capable ensuite de voilà d'entraîner Thérèse vers d'autres chemins.
Oui, mais l'amour c'est la partage aussi et le don de soi, hein, de toute façon, oui. Quel que soit l'amour. Alors vous allez nous emmener, on va de Paris, on va se retrouver ensuite à Dinard, vers Saint-Malo, où nos deux héroïnes vont se retrouver sous le bombardement, sous les bombes alliées. Et là, elles auront des choix à faire. C'est quelque part vivre ou mourir, finalement.
Oui, c'est vivre ou mourir, puisque, bon, alors d'abord, quand elles sont à Dinard, c'est une période difficile aussi, parce qu'elles finissent par vivre ensemble, ce qui, évidemment... La société de l'époque est extrêmement délicate. Alors,
oui.
Officiellement,
oui,
Esther est la cousine.
La cousine de Rachel. Oui.
La cousine, oui.
Oui.
Donc, il y a une sorte de couverture, je dirais. Mais évidemment, bon, il y a des gens dans l'entourage qui ne sont pas dupes. Donc, elles sont harcelées par des mots qui sont mis dans les boîtes aux lettres, etc. Donc, bon, c'est difficile. Et après, effectivement... Il y a toute la période de la libération avec les bombes qui tombent, etc. Où voilà, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'elles vont mourir ensemble? Ou est-ce qu'elles vont réussir à s'en sortir? Bon, c'est toute la fin du livre.
Oui, oui.
Je ne vais pas
non,
dévoiler.
Surtout pas.
Mais comment?
Non, surtout pas. Faut pas parler de la fin.
Oui, faut pas dévoiler la fin, surtout pas.
Non.
Et donc voilà, elles vont avoir une dernière épreuve très difficile à vivre.
Alors, je suppose que justement cette fin, dirais-je, enfin cette fin, leur histoire entre Dinard et Saint-Malo, j'ai trouvé que le ton, le rythme changeait. C'était plus rapide, plus incisif, plus aventureux, dirais-je. On avait l'impression, si vous voulez, que vous étiez sous les bombardements et que les bombes vous tombaient sur la tête en lisant le livre.
Oui. Oui. Alors, ça vient du fait que dans un roman, souvent, alors les choses peuvent commencer très vite. Là, elles démarrent très vite, puisqu'on
oui.
on démarre tout de suite avec l'arrestation des parents.
Des parents de Rachel.
Et puis, Esther est jetée à la rue. Mais c'est vrai qu'après, bon, y a des périodes qui sont plus lentes, qui correspondent à la découverte abreuse, à toutes ces choses-là. Une fois après qu'on arrive vers la fin du roman, c'est vrai, le rythme s'accélère de nouveau. Et c'est normal, parce que je pense qu'un disons la construction d'un roman, là, si on parle de roman, la fin souvent doit être plus vive et plus enlevée, plus mouvementée, je dirais, pour garder aussi l'attention du lecteur qui, probablement pourrait, si j'étais resté sur le même registre de la découverte amoureuse, voilà, ça aurait été un roman plus court, à mon avis.
Tout à fait.
Et pour montrer qu'une fois que leur amour est vraiment, ancré, qu'il est définitif, même si à un moment, bon, on va pas non plus raconter l'histoire, mais à un moment, elles se séparent, enfin, elles ont des difficultés quand même dans leur couple.
Oui. La vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et tous les gens qui sont en couple le savent.
Oui.
Donc il y a des périodes difficiles, mais une fois que quand même leur amour est bien exprimé, bon, qu'elles en sont toutes les deux conscientes et puis qu'elles le vivent et qu'elles veulent le vivre surtout dans cette période difficile où on les rejette, voilà, il faut un petit peu d'un coup d'accélérateur pour montrer que les choses sont à la fois difficiles et puis que l'on va aller vers une issue.
Oui, tout à fait.
On va aller vers une issue. Mmh. Et l'issue, on va pas y aller lentement, finalement, on va y aller assez vite.
Mmh.
Et cette accélération, je pense, j'espère en tout cas, maintient le lecteur et l'électrice en haleine jusqu'au bout.
C'est ça, je vous le confirme.
Jusqu'à la dernière page.
C'est un joli livre que vous nous offrez, Olivier Merle, Libre d'aimer aux éditions XO. Rapidement, vous avez déjà, je suppose, d'autres projets d'écriture?
Ah oui, bien sûr. J'ai même achevé le prochain roman.
Oui.
Je suis en train d'en faire les corrections. Je le relis attentivement. Bon, il faut une fois qu'on a écrit un roman, qui est la partie la plus longue, hein, évidemment, ça s'échelonne sur plusieurs mois.
Bien sûr.
Après, il faut le relire, le corriger. Enfin bon, ça c'est une autre étape qui est très différente. Et je suis en ce moment dans les corrections.
Eh bien, alors on vous retrouvera avec grand plaisir dans quelques mois, fin 2019, début 2020.
J'espère, pas 2019, ce serait trop rapide,
oui, mais 2020.
Parce qu'il faut, alors une fois que le roman, je considère moi qu'il est achevé, il faut que je le présente à mon éditeur.
Bien sûr.
Donc après, il faut qu'il soit lu par la maison d'édition, accepté, etc. Donc il y a, tout un processus qui est assez long, mais j'espère qu'il, en 2020 certainement, j'espère qu'en 2020 il sera publié.
Eh bien, nous vous attendrons avec bonheur, Olivier Merle, donc. Voilà. En attendant, nous pouvons vous retrouver avec votre belle écriture si sensible et si bien faite avec Thérèse et Rachel, Libre d'aimer aux éditions XO. Je vous remercie infiniment et puis bien plein de bonnes choses pour votre prochain roman et à une prochaine fois.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.